Dans le MCU, le Nicolas Cage Universe, Nick Cage est un super-héros, mais pas là. Ici, il est déprimé au point que même sa psy ne sait que faire. En mal d'argent et en manque de propositions de rôle qui le referaient décoller, son agent Barney Stinson n'a qu'une offre pour lui, faire acte de présence à un anniversaire. Nick a tout de même l'impression de se prostituer, mais $1 million, il accepte. Le voilà alors à Majorque se demandant toujours s'il ne se retrouvera pas d'ici peu avec une bite dans la bouche. Heureusement, non. Mais surprise, son hôte n'est autre que Lord Oberyn, avec toute sa tête pour le coup. Et deuxième surprise, il est méga trop sympa et méga trop fan de lui en plus. C'est alors une route vers la bromance qui s'ouvre pour Nick. Mais une surprise en entraînant une autre, cette bulle de bonheur éclate lorsque la CIA, qui était là en soum-soum depuis le début, lui apprend que Lord Oberyn n'est autre qu'un infâme gangster, un malandrin mandalorien de la pire espèce qui a cloné Nicolas Cage pour en faire une armée prête à envahir le monde. Alors, engagé comme agent double pour les aider à le coffrer, c'est full pression pour Nick qui est torturé entre trahir son amitié naissante et devenir un véritable héros. Voilà l'histoire que l'on s'était imaginée après cette fée des films avec la BA du dernier Tom Gormican. Et oui, dans l'épisode 86. Mais qu'est-ce que ça raconte en vrai? Douille ou pas douille? Nos avis et ceux de la presse, c'est parti pour le match retour d'un talent en or massif.
DJ, kick that shit.
Ça te fait mal quand on te tire dessus?
Je ressens les blessures. La douleur est une simple information.
Votre discours était très éclairant.
Très éclairant? C'est du blabla, oui.
T'intéresses à qui? T'intéresses à quoi, toi? Est-ce que t'en as de la considération?
Tu déconnes, non? T'as aucune notion, t'as fait 40 films, t'as même pas assimilé un minimum de techniques. T'es nul!
Bonjour et bienvenue dans le match retour d'un talent en or massif, le dernier film de Tom Gormican. Alors, je vous avais dit que c'était un réal qui monte.
Ouais, il est hype.
Oui, il monte pas, il est un monteur.
Hein. Après vous avoir exposé nos attentes autour de sa bande-annonce, sont avec moi autour de la table pour revenir en avis sur ce film ma team de sosie d'acting de Nicolas fucking Cage. Kevin est là, salut Kevin.
Bonjour. Waouh, Romain.
Clément aussi est là, salut Clément.
Ouais, je suis là, ouais.
Ok, c'est l'effet Nicolas Cage. Johanna aussi.
Salut, c'est quoi le problème là en fait?
Allez, elle est plus dans ton vénère.
Volte-face là. Ouais.
Et Clémence.
Bonjour. Ah. Romain.
Calmez.
Plus
calmez.
Intérieur, plus.
Terrence Malick. Alors, Nicolas Cage, un talent en or massif de NBA Ball, quelque chose en anglais, je sais plus. De Tom Gormican. The Wait of Nicolas Cage. On va vous dire tout ça, évidemment, mais avant toute chose, vous savez qu'il faut qu'on définisse à quelle hauteur de spoil on se situe pour cet épisode. Et c'est le calculateur qui s'en occupe. Bonjour, El Calculator.
Salut les cages.
Salut.
Salut, El Calculator.
Bonjour. Alors, à ton avis,
oui.
À combien de pourcentage s'élève cet épisode?
Le taux de spoil pour un talent en or massif sera de... 100%.
Bah bien sûr, comment parler de Nicolas Cage qu'à moitié, qu'un quart, un tiers? Non, Nicolas Cage c'est tout ou rien.
On ça fait plusieurs entier. Fois qu'on est à 100%, est-ce que ça sert à quelque chose de
là,
demander
ces derniers temps? Non, à pas grand chose.
Tu veux me mettre au chômage, Clémence?
Non, parce qu'il y a aussi
la roue de la chance.
La roue de la chance, c'est le calculateur.
C'est parti, on la tourne.
Allez, tac.
Qui va résumer le film? On va bientôt le savoir. Johanna,
c'est injuste.
J'avoue, deux fois de suite, là, pas de chance avec la roue.
Chance.
Ah là là. Merci, El Calculator.
Je t'en prie.
Nicolas Cage, tellement de choses à dire, les amis.
Une carrière.
Que ça commence comme ça.
Une vie.
Ouais, c'est ça. Bah, ça parle d'un acteur sur le déclin, Nicolas Cage, qui n'a plus beaucoup de rôles, qui n'a plus grand-chose à se mettre sous la dent. Qui se bat comme il peut auprès des réals pour leur montrer l'intérêt pour leur projet, mais dont tout le monde s'en fout. Et c'est qui est entre autres un père de famille en perdition, qui n'arrive plus à tisser le lien avec sa fille et qui lui fait voir des vieux films allemands, Le cabinet du docteur Cagliari. Ça m'a fait rire.
Vous avez vu ça, vous?
Non.
Oui,
non.
Oui. Ah ouais, alors
bah, c'est très bien. Mais moi, j'aime beaucoup l'expressionnisme allemand, donc je vais...
Excuse-nous, Joanna.
J'ai toujours vu l'affiche, mais j'ai eu peur de regarder.
Suivant cours. Hein,
et donc cet acteur qui s'en sort pas et qui est très endetté parce qu'il est séparé de sa femme et vit à l'hôtel, il doit 900 000 dollars, je crois, à l'hôtel.
Non, 600 000 dollars
à l'hôtel. Son agent lui propose un contrat pour aller sur les côtes espagnoles auprès d'un milliardaire qui veut qu'il soit là à sa soirée. C'est son anniversaire ?
Yes. Ouais,
c'est Sweet 16.
Donc, évidemment, il ne veut pas au départ parce qu'il a l'impression que c'est faire le clown au Club Med. Mais finalement, sous le poids des dettes et sous le poids de il déçoit sa fille le soir de son anniversaire, il décide d'y aller pour éponger ses dettes. Donc au début très sceptique parce qu'il pense qu'il va avoir affaire à un milliardaire fou qui va lui demander des services sexuels chelous. Et au final, il se trouve que ce milliardaire est un mec avec qui il s'attache à ce gars, il lie une amitié. Ce gars est très fan de Nicolas Cage. Il a une espèce de musée dans sa maison à l'effigie de Nicolas Cage. Et Nicolas Cage a eu une importance cruciale dans sa vie, dans un moment où il allait mal. Il regardait les films de Nicolas Cage et il allait mieux. Sauf que Nicolas Cage tisse des liens avec ce gars qui lui redonne confiance dans le fait qu'il est une star et qu'il est un bon acteur. Sauf que la CIA s'en mêle et prévient Nicolas Cage que cet homme, son hôte qui l'accueille, est un dangereux criminel qui a kidnappé la fille d'un gars qui se présente à la présidentielle en Espagne,
en Catalogne.
Et qu'ils font du chantage à l'enlèvement et qu'il faut que Nicolas Cage aide la CIA à mettre ce méchant hors d'état de nuire. Et donc, comme astuce pour rester après la fête d'anniversaire, il lui propose qu'ils écrivent un scénar ensemble pour se remettre sur la sellette.
Et se crée une très belle amitié,
ouais,
entre le Pablo Escobar de Majorque, soi-disant, et Nicolas fucking Cage.
Sur fond de Paddington 2.
Oui, sur fond de Paddington 2.
Bien sûr. On va rentrer dans les détails peut-être dans nos avis, mais en fait, c'est pas un peu ce qu'on avait ressenti avec la BA, selon vous ? Moi, j'ai pas appris grand-chose, en fait, de plus que la BA.
Et ça, c'est le douille-padouille.
Ouais. J'ai pris un peu d'avance. Voilà. J'ai une petite longueur d'avance. C'est le douille-padouille pour comparer l'un et l'autre.
Douille, 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 douille-padouille.
C'était une douille.
Douille, 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 douille-padouille.
T'es pas une douille.
On n'aurait pas vu un peu la même chose dans la BA que dans le film ?
Tu n'orientes pas un peu notre avis ?
Peut-être.
Clémence, douille ou pas douille ?
Pas douille, non, effectivement, la BA annonçait bien ce qu'est le film. Par contre, je trouve qu'il y a quand même une petite nuance différente, c'est que la BA était vraiment en deux parties, une partie buddy movie, bromance, et une autre partie très suspense, action avec la CIA, alors que là, le film, il entremêle pas mal les deux jusqu'au bout, je trouve.
Ouais.
C'est pas si hétérogène, quoi.
C'est un peu quand même superflu, la CIA, non ?
Oui, mais ça reste quand même un enjeu dramatique, entre guillemets, jusqu'au bout, quoi, ce côté vrai danger. Et en même temps, ils restent, eux, très proches, les deux personnages. Très
c'est une belle amitié.
Mmh. C'est vrai.
Kevin, douille ou pas douille ?
Mais moi, j'ai envie de dire un peu douille positive, parce qu'en vrai, la BA, j'avais l'impression que j'allais voir vraiment un film nul, quoi. Et je trouve que le film, il est bien, il est pas mal, il est vachement frais, il est vachement rythmé, je trouve qu'il est plutôt bien construit. Alors, c'est sûr, ça révolutionne rien, mais je trouve que c'est une bonne comédie, quoi.
Ouais. Clément ?
Oui, pareil, Padouille, j'étais celui qui avait le plus de craintes par rapport au film. J'avais vraiment peur que ce soit nul. Et au final, j'ai quand même rigolé de bon cœur. C'est pas vraiment ma tasse de thé en général, mais ça, tu passes un bon moment, quoi.
Ça fait du bien, samedi, ouais, après-midi pluvieux.
C'est euphorisant.
Avec les copains.
J'ai une mini douille positive parce que quand même, on a quand même une révélation dans ce film, même si on n'en a rien à foutre, c'est que le méchant n'est pas celui qu'on croit.
Yes.
Mais au fait, ma bonne surprise, c'était que je me demandais sur quel pied le film allait danser. Et ça a été une bonne surprise de voir un film aussi décomplexé sur sa deuxième partie. Et au fait, moi, je l'ai trouvé touchant, Nicolas Cage, parce que ça se voit qu'il a énormément de recul sur lui, sur sa carrière. Et j'ai beaucoup aimé le côté famille aussi, qui est sous-jacent dans le film.
Et toi, Romain ?
Toi, Romain, alors ?
Bah, comme Kevin, douille positive, parce que bon, c'est vrai que... On s'excitait de voir un film sur Nicolas Cage, évidemment, mais bon, on savait quand même qu'il y avait une petite odeur de noisette derrière, tu vois. Mais au final, ça reste un film qui est surprenant parce qu'il est bon, en fait. Enfin, il est bon pour ce qu'il est, hein. Attention, c'est pas un chef-d'œuvre non plus, mais en termes de divertissement, j'ai pas vu le temps passer, j'ai rigolé pas mal de fois, c'est plutôt bien réel pour ce que c'est. Et puis c'est con comme ouais. J'aime en fait, c'est ça qui est bon quoi, c'est que c'est, et c'est assumé tel que.
Ouais, c'est con décomplexé quoi.
Ouais, et ah, c'est ce qui fait le génie de ce certain Tom Gormican.
Vous reprendrez un peu de Gormican aussi.
Un Oscar pour Tom. Hein.
Après célibataire malgré moi, vraiment un très bon film.
Ouais, célibataire pourquoi pas, je crois.
À ne pas confondre, hein, ça oui.
Est-ce qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet en allant plus profondément dans le film ? Sur, par exemple, son aspect dramatique, je ne sais pas.
Son aspect cinématographique, je ne sais.
En tant que film d'espionnage, Clémence, qu'en as-tu pensé ?
Non, moi je suis d'accord avec Johanna, je trouve que le gros point fort du film, c'est en fait la personnalité de Nicolas Cage, pas que dans sa dimension acteur qui joue à 200% et qui en fait toujours trop, mais vraiment dans son côté... acteur passionné en fait, passionné par son art, et le personnage je le trouve très bien écrit. Je sais pas à quel point c'est proche de la réalité et de sa vraie perception à lui de son métier, mais dès le départ on comprend que c'est pas tant que ça cet acteur qu'on imagine prendre n'importe quel rôle. Au fond de lui, il a pas envie de ça, au fond de lui il a envie de se transcender et d'être vraiment de faire ça pour l'art et pas pour le chiffre, pas pour le côté commercial du cinéma. Donc c'est hyper marrant, c'est, ça va avec le fait qu'il montre le docteur Caligari à sa fille. Il est assez décalé par rapport à l'industrie, mais personne n'en a vraiment conscience quoi. Et du coup je trouve que ça c'est bien filé tout au long du film, parce que dès lors qu'il devient ami avec Ravi. Et ben, ils sont tous les deux sur la même longueur d'onde, parce que Ravi, il a beau être peut-être un dangereux criminel et tout, en fait lui il est très cinéphile, assez pointu quoi. Il pense à l'écriture des personnages dans son scénario. Pour lui c'est vraiment pas, il veut pas rentrer dans les clichés en faisant un film quoi. Il veut être dans un truc assez fin et psychologique, et du coup ils sont très marrants tous les deux à être dans ce délire là. Et je trouve que Nicolas Cage est vraiment très touchant, parce qu'on sent à quel point il est passionné par son art, et il y a toujours un truc, cette étincelle en lui au fond quoi. Et à un moment, il y a sa fille qui lui dit de façon assez dure, en parlant de lui en tant que père, « Tu fais toujours mal, et le pire, c'est que tu veux toujours faire bien. En plus, tu crois faire bien. » Et ben, je trouve que ça s'applique vachement bien à sa manière de jouer, en fait. C'est que nous, on se fout tout le temps de sa gueule. On se dit « Oh là là, mais c'est raté, mais d'ailleurs, c'est raté. » Et en même temps, il veut faire bien.
Il y a pas mal de petits extraits de lui un peu fou dans ses films, dans le film. Et le film est ultra métaception, ouais. En fait, c'est du méta dans du méta, parce que même le film se construit autour du scénario qu'ils écrivent eux, en ayant Nicolas Cage comme acteur qui joue son rôle. Enfin, c'est tout un délire comme ça qui fait que en fait ça rend bien hommage à la
connerie. Il y a beaucoup d'autodérision, quoi. Parce que finalement il suffit qu'on lui dise action pour qu'il reprenne conscience alors qu'il est évanoui. Il va justement avoir ces moments où d'un seul coup il se met à crier pour rien, ou alors à être ultra fatal et à dire des trucs de ouf quoi.
Dépressif.
Ouais, voilà, et il se moque beaucoup de lui-même.
Et puis là,
de son jeu d'acteur chamanique.
Oh putain, oui. De tragédien chamanique.
Ah ouais, puis il a une relation amicale ultra thérapeutique, je trouve, avec Ravi. Bah, et en fait, il a trouvé un cousin, un frère, ouais. Quoi. Un mec, il joue, quoi. C'est vraiment des gamins qui jouent ensemble. Et j'aime trop ces moments quand il y a de la drogue ou pas, mais quand ils déconnectent totalement et qu'ils sont dans une scène de film. Et
c'est ce que je préfère dans le film, ouais.
Ou même quand ils échangent leurs chaussures. On en parle de cette scène.
Ah ouais, y a
c'est beaucoup trop mignon. En fait, il est vraiment une plus-value au film, quoi. C'est que c'est un film qui pourrait faire très égo-trip. Et au fait, c'est contrebalancé par le recul, par l'humour, par l'autodérision et par le côté méta du film. Et après, j'ai trouvé que le méchant jouait très 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 mal.
Le vrai méchant
du film. Les agents de la CIA, ils m'ont juste fait taper des barres parce qu'ils sont inutiles. C'est incroyable.
C'est des personnages de cartoon.
Ouais, ils sont incroyables d'inutilité, quoi. C'est le gag est génial, mais même la meuf, comment elle finit et tout, ça n'a aucun sens. Mais voilà, c'est vraiment décomplexé, et moi ça m'a touché, la petite intrigue familiale quand même si c'est un peu en filigrane dans le film, et où au final il pose des petits fusils de Tchekhov où tout le monde sert à quelque chose quoi. Parce qu'au final sa femme se retrouve à la fin du film pour qu'ils infiltrent la base du méchant, à le déguiser parce qu'elle est maquilleuse FX. Et du coup, à le déguiser à base de prothèses et de maquillage en mafieux italien.
On dirait un vieil entraîneur de foot.
Mais oui, en plus, il a un numéro 9 dans le dos et tout, c'est ridicule.
C'est dégueulasse.
Ça m'a un peu fait penser à Inglourious Basterds quand ils ont fait des caisses pour jouer les Italiens. Ouais. Là, t'as un peu de ça dedans. Et au fait, c'est pareil, c'est une... C'est cadeau pour Nicolas Cage, quoi. C'est vas-y, joue l'Italien qui en fait des caisses. Le gars, il se donne à cœur joie, quoi. Et voilà, et j'ai trouvé touchant en tout cas ce trio familial où au final il y a le Paddington Gate qui le reconnecte à sa fille. Quoi.
Alors moi ça m'a donné vachement envie de voir.
Il est trop bien Paddington 2. Ça fait plusieurs fois que je le vois dans des listes de meilleurs films anglais et tout. Et je suis trop surpris.
Ça. Mais ça, c'est ça, genre Paddington quoi. Qui est amené dans le film comme une touche humoristique. En gros, il demande à Ravi c'est quoi son top 3 de films préférés. Et son film préféré de tous les temps, c'est Paddington 2. Donc Nicolas Cage est sur
lui.
C'est son troisième.
Il y a Volteface, ouais. Ouais, il y a Volteface. Docteur Caligari.
Le cabinet.
Et Paddington 2.
C'est ça. Et donc ils regardent Paddington 2 ensemble. Ils sont en chiale pendant toute la scène. Donc c'est une révélation pour Nicolas Cage. Et à la toute fin du film, pour se rapprocher de sa fille qui lui reproche avant de s'intéresser qu'à lui et pas à ce qu'elle elle veut, il lui propose qu'ils voient un film ensemble et elle choisit Paddington 2 et du coup le film se termine sur sa fille et lui en chiale en train de devant Paddington 2 dans les bras l'un de l'autre. C'est hyper touchant quoi, c'est hyper mignon.
Puis bon tips pour les célibataires aussi, une petite soirée Netflix Paddington là.
Bah grave.
C'est une bonne BA pour Paddington 2 en tout cas, ça donne envie.
J'avoue la pub pour Paddington 2.
Sans avoir une image.
Et on a rien vu.
On l'a pas vu.
Je me suis demandé si c'était le même studio ou pas. Parce qu'il y a quand même deux coups de pub pour un film, c'est rare.
Non mais je crois qu'ils se font plaisir dans les références, ouais, parce que t'en as plein en fait. Bah, t'as énormément de films de Nicolas Cage.
Ouais.
Ils refont The Rock, ils refont 60 secondes chrono.
Donnie Brasco, il est dedans. Parce qu'il cite Donnie Brasco. À mon avis.
Oui, ouais.
C'est
ouais.
Possible, mais après,
et puis son double Nicolas Cage qui est intérieur, il fait penser à sa période Sailor et Lula.
Totalement.
Vachement, ouais.
Ah oui, bah, toi Clément, oui, si tu veux attaquer sur le double, parce que c'est vrai, on en a pas parlé encore.
C'est un des trucs qui m'a pas plu.
Ah ouais.
Ouais, j'ai pas aimé ce personnage, je trouvais que ça avait un peu rien à faire là.
Parce que nous, dans la BR, on avait imaginé que c'était un volte-face encore.
Ouais,
un clone.
Ouais, ouais. En plus, je pense que c'est volontaire, mais c'est un peu une sorte de deepfake de Nicolas Cage jeune. C'est un peu, t'es un peu dans la Uncanny Valley, c'est un peu bizarre, il est pas très bien fait je trouve. J'ai trouvé que ça amenait pas grand chose ce côté là il vient trois fois dans le film je crois, mais à part ça ouais j'ai passé un bon moment, franchement c'est drôle, ça se prend pas la tête et ça se sait un peu série B quoi, et du coup c'est marrant parce qu'on est dans la parodie et ça marche à fond. Moi ce que j'ai préféré c'est vraiment les moments où ils se mettent à jouer dans la vie, quoi. Genre, tout d'un coup, ils deviennent des personnages et t'as des espèces de zoom et la musique dramatique qui se lance et tout. Et t'as la scène culte dite du mur qui est assez folle. Enfin, voilà, il y a plein de moments comme ça. Après, je suis pas fan de tout ce qui est un peu espionnage et tout dans le film.
Ouais, mais là, c'est
pénible. Mais c'est très secondaire.
Mais voilà, bon, franchement, c'est assez marrant. Je suis pas sûr, enfin, c'est pas très gentil de dire ça, mais je suis pas sûr que ça méritait une sortie en salle. Moi ça aurait été
mais
sur une
quel
plateforme.
Quel film ne mérite pas une
non,
sortie
oui, mais
en salle
que bon, je l'aurais vu chez moi avec une bière et du popcorn, c'était pareil quoi, mais c'était franchement c'était sympa.
Et vous avez pas vu l'effet ASMR, il y a que moi. Moi j'ai trouvé le son, je sais pas, le son, les prises de voix,
le timbre fait un effet.
C'est peut-être Nicolas Cage
non,
en fait,
c'est sa voix, ça
marche.
Ah
ouais, mais ça marche avec tout le monde, avec Pedro Pascal et tout.
Enfin, c'était nickel mais j'ai pas fait gaffe.
Je sais pas, c'était trop clair, c'était trop distinct. Peut-être que après ils avaient changé les enceintes au cinéma, j'en sais rien.
Non, tu sais pourquoi? C'est parce que le film que t'as vu avant, il y avait des travaux. Là, il y avait pas de travaux.
Ça t'a fait bizarre.
Là, il y avait pas de travaux, donc t'avais l'impression de tout ensemble.
Ouais, c'était pour ça. En tout cas, dans le fond. Si ça permet ça, j'irai voir des films de merde avec un marteau-piqueur pour mieux apprécier un chef-d'œuvre derrière.
Le film d'après.
C'est une nouvelle technique. Et toi, cette histoire de double, Kevin, est-ce que ça perçu quelque chose?
Perçu, je sais pas, mais bon, ça m'a amusé de voir Nicolas Cage en plein ego trip premier degré avec son lui fantasmé du passé et qui va jusqu'à se rouler une pelle à lui-même.
C'est
incroyable.
Et il fait « Nicolas Cage, il roule des super pelles !» Je trouve ça... Je trouve ça trop marrant parce qu'en fait finalement ce perso là c'est le Nicolas Cage tel qu'on se le représente nous public, alors que j'ai l'impression que le Nicolas Cage plus âgé de maintenant c'est plus bien sûr fantasmé mais plus une version de lui-même réelle quoi, je pense que qui se joue vraiment lui dans son quotidien, donc un petit peu barré mais quand même sensible et puis impliqué dans son métier quoi.
Du coup c'est l'image qui lui colle à la peau et qu'il n'arrive pas à se détacher en fait.
Ouais,
et
après je pense que c'est l'image qu'il aime bien aussi parce qu'il en joue quoi, et ça se voit trop, ça se voit beaucoup dans le film parce qu'il aime beaucoup il y a cette scène où il voit sa statue de cire et avec la vitre il y a son visage qui se superpose et qui pour moi c'est signifiant du fait qu'en fait il est devenu le personnage public aussi quoi, enfin
ouais.
Que ça a transcendé un peu son être et qu'il l'assume totalement et que c'est marrant quoi. C'est ce qui fait son identité, Nicolas Cage. Et puis c'est pour ça que le film est aussi drôle quoi. C'est que en fait c'est un film qui tourne autour de lui, c'est pour lui, par lui, enfin pas par lui, c'est par Cormican bien sûr, excuse-moi, Je voulais pas.
Il a pas écrit le film. Hein.
Je voulais pas.
Ouais, mais je sens que on sent que Gormican il est fan de Nicolas Cage.
Ouais, mais Gormican il a coécrit le film, j'ai vu à la fin. Ouais. Et puis ça se voit qu'il est fan. Et puis je trouve que ouais, c'est ça, c'est un film qui fait plaisir parce que c'est un film que d'amour en fait. C'est l'amour entre les deux avec Pedro Pascal et lui. C'est l'amour avec sa famille qu'il retrouve. C'est l'amour qu'on a pour lui, acteur, pour le cinéma, etc. Donc je sais pas, c'est un film qui fait du bien. Après, j'ai peut-être beaucoup aimé parce que je l'ai vu un jour après Vortex et que ça m'a fait un waouh. Wow
bah oui. C'est bien la vie en fait.
Du soleil.
Tu vois. Et aussi même après Pig.
Et après Pig, ouais.
Son précédent.
Et bah Pig, il est très très bon d'ailleurs dans Pig.
Mais qui n'est pas sur le même ton.
C'est, ouais, plus, si c'est plus dramatique.
Si, ouais, si vous voulez voir Nicolas Cage dans un rôle dramatique où il est dans le nom, dans, où il est très taiseux et tout ça, se joue beaucoup sur les regards et tout. Pig, c'est
donc
très
Joey
bien.
Aussi, je ne sais pas si vous avez vu ce film. Joey, très très bon.
Et ça m'a donné aussi envie de voir Mandy.
Il paraît que Mandy, c'est trop bien.
Il paraît que Mandy, c'est excellent et puis il y a beaucoup de références à Mandy dans le film.
Ah ouais, ok, j'ai pas vu du tout.
Avec la tronçonneuse.
Avec la tronçonneuse.
Mais Nicolas Cage, il joue super bien. Moi, je trouve premier degré. Oui. Je trouve qu'il alterne bien entre quand il se fout de lui-même et quand il est plus dans la retenue parce qu'un peu dépressif et justement à casser l'image du Nicolas Cage fou. Et ce qui est très très fort, c'est son duo avec Pedro Pascal qui joue aussi très très bien. Qui
oui,
est
il est vachement bien.
Ultra attachant. Et limite, on est super heureux en tant que spectateur de voir que finalement, il n'est pas si méchant.
Parce c'est la première fois que je le vois en mode comédie, je crois. Il en a pas fait avant, il me semble.
Non, il est toujours très sérieux.
Je sais pas, j'aime bien sa tête, moi. Il me fait
mais oui, ouais. ils sont trop choux, quoi. Mais vraiment.
Ils se regardaient avec un tel amour d'amitié, tu vois, amour de frère, quoi. C'est.
Je trouve qu'ils sont amis dans la vraie vie. C'est peut-être pour ça.
Et même dans le truc de, c'est un fan au final qui te redonne foi dans tes capacités et tout. C'est hyper mignon, quoi. Enfin, leur amitié, elle est vachement basée dessus aussi, quoi.
Ouais, et puis en plus t'as un côté frais ado. Tu sais comme quand t'es ado et que tu dis ah j'aimerais trop écrire un film et tout. Et puis c'est un peu ça qu'ils vivent, quoi.
Viens, on dit qu'on est des méchants.
Ouais, je trouve ça trop cool, quoi. Ça m'a rappelé des souvenirs, des bons souvenirs de lycée où on essayait d'écrire des scénars et tout. On faisait n'importe quoi, c'est marrant.
Et au final, l'enquête n'avance pas.
C'est ça. Viens, on dit que les deux qui mangent des glaces, c'est des espions.
C'est ça qui est ça, très drôle, au fait. C'est que l'enquête, en fait, elle n'avance pas d'un poil pratiquement tout le temps. Eux, ils se prennent de l'acide et tout.
Ouais.
Ils communiquent avec la SIA par SMS, mais c'est n'importe
mais c'est
quoi.
Mais c'est n'importe quoi.
C'est vrai, en plus.
Et la CIA, t'es là, mais qui sont ces gens, quoi?
Il y a toute une scène où, je sais pas, ils se shootent avec une espèce de d'autocollant qui se touche
oui,
le
oui,
sou, pas quoi.
L'agent incapacitant.
C'est tellement drôle. C'est...
Je crois que j'ai touché mon front.
Quoi?
Je te jure, à ce moment-là, j'étais mort. Quoi.
T'es sûr? Je sais pas. Ah bah, là, je tombe, donc oui.
J'ai... Et ça, j'ai trouvé que ça faisait vachement penser à The Interview. Je sais pas pourquoi, ça m'avait pensé à... bah, avec James Franco et
pote,
Seth Rogen.
Film de potes drogués, quoi.
C'est, ouais, c'est ça, où en fait, ils sont censés être dans un truc vraiment grave et sérieux, mais en fait, ils sont pas en capacité, ils sont pas compétents pour ça, mais ouais. Ouais, ils se débrouillent.
Pas inquiété, quoi. C'est clair que même à la fin, quand ils sont face à tous les mafiosos là, avec les armes et tout, les mecs ils turn over d'un coup, ils se croient dans un film, dans le rock, et puis bam bam, tu fais bon. Le premier degré, heureusement qu'il est déjà loin derrière, tu vois, mais bon, tu peux te poser des questions quand même sur, sur leur folie, quoi.
Et puis, comme tout le monde est fan de lui, c'est toujours drôle, et ça fait toujours des scènes marrantes, quoi, quand il libère la fille du candidat là, et qu'elle le voit débarquer en mode Nicolas Cage,
c'est trop cool!
C'est trop cool! Et en vrai, c'est trop cool, moi je veux me faire sauver par Nicolas Cage.
Et même, vous en avez pensé quoi du coup du côté méta? Bah, déjà, du fait qu'il répète vachement avec son agent. C'est le film qui va faire qu'on revient dans le game, même si on n'a jamais quitté le game. Et cette fin où, au final, à la toute fin du film, quand il sauve les filles, au fait, on est dans le film qu'il a écrit avec Pedro Pascal.
Papa, je t'aime.
Avec Demi Moore.
Avec Demi Moore.
Avec Demi Moore.
J'ai bien aimé le raccord.
Ouais, c'est aussi les
Demi Moore, je m'y attendais pas par contre.
Pareil.
Ah non, mais j'étais quoi? Demi Moore, qu'est-ce que tu fous là?
Mais ouais,
qu'est-ce qui se passe?
Juste là, je comprends pas.
Bah, je trouve que c'est un beau cadeau pour lui, quoi. C'est que là, vraiment, le film, c'est que vraiment, si tu veux relancer ta carrière et montrer que t'es encore dans le coup et que tu as beaucoup d'autodérision et tout, c'est vraiment le film parfait, quoi. Et j'aimerais bien que ça le relance un peu et qu'il y ait des réalisateurs. Un peu plus peut-être prestigieux, qui s'intéresse à lui. Il a eu un peu une traversée du désert, mais là, ça fait un peu genre je vais rebondir. C'est touchant quand
même. Il y a un truc touchant, il y a beaucoup de jeunes comédiens qui s'écrivent eux-mêmes leurs films parce qu'ils trouvent qu'on ne leur propose pas les rôles dans lesquels ils aimeraient jouer et qui font, du coup, qui réalisent un film dans lequel ils se mettent en scène pour montrer ce qu'ils savent faire. Et je trouve ça touchant qu'à son âge et avec l'expérience qu'il a et la carrière qu'il a, il fasse ça, quoi.
Bah, il se fait plaisir en fait. Il se fait plaisir tout en ayant aussi peut-être l'objectif aussi de, ouais, d'avoir une espèce de bande démo en mode regardez.
Je suis encore dans le
game, je peux peut-être faire des entrées, peut-être faire parler la presse, ça j'en sais rien.
Mais en même temps, je sais pas, enfin juste pour répondre à ta question, je suis pas sûre qu'un talent en or massif fasse grand bruit et fasse beaucoup d'entrées au ciné et relance la carrière de Nicolas Cage. J'ai l'impression qu'un film comme Pig davantage pour le coup côté
ouais, mais
critique.
Pig, c'est... Non parce que c'est niche. Ouais. Hein.
Là, nous, la salle, elle
là je trouve
hein.
que c'est niche.
C'était blindé.
Ah ouais, parce que j'ai l'impression que c'est un cadeau pour lui et pour les fans de Nicolas Cage. Et que nous, on est juste trop contents. Enfin, les fans, plus ou moins. Mais voilà, on est contents parce qu'il nous fait marrer et qu'on voit cet aspect-là de lui en plus.
Ouais, ouais, mais c'est comme être Messi au PSG, tu vois. Ça fait vendre des maillots et en même temps, pourquoi pas. Hein.
Et après, c'est vrai que je sais pas vous, mais dans la salle, nous, il y avait beaucoup d'âges différents. Il y avait des gens plus jeunes que nous, des gens beaucoup plus âgés que nous. Et il y avait un effet, je disais à Clémence avant le début de l'enregistrement, les gens se justifiaient d'être là. Il y a un mec qui est venu nous parler avec Clément en disant « Je sais pas à quoi m'attendre. Hein. Moi, je voulais un divertissement. Je sais pas trop. »
On va voir si c'est bien.
J'hésitais entre Vortex et ça. J'espère ne pas m'être trompé.
Et après, Nicolas Cage a toujours son aura, tu vois. Donc, t'as envie d'aller le voir. Et puis, en vrai, ça, je pense que ça relance un peu une dynamique. Parce qu'il a fait quand même des souhaits de rôle, Nicolas Cage, récemment. Il veut jouer dans le prochain Batman de Matt Reeves. Et il y a quand même des gens après qui sont en mode en train de pousser, genre allez, faites-le jouer dedans, tu vois. Et bah, peut-être que Ted Duff sera dans Batman 2.
Oh punaise, Ted Duff, non, Nicolas
Ted
Cage.
Duff.
Ah bah écoutez, nous en tout cas, ça nous a plu.
Oui.
Et est-ce que ça plaît aux journalistes?
Ah bah ça, c'est notre question.
Dédié au cinéma, c'est une bonne question. Et on va tout de suite gratter.
Les notes Rotten Tomatoes, sa note bien, c'est 88 sur 100, c'est une bonne note. Metacritic, sa note moins bien, c'est 67. Et Allociné, bah, c'est 3,1, que je trouve correct pour une comédie comme ça, populaire américaine. Mais bon, vous verrez que tout le monde n'est pas d'accord. On va commencer par les gens qui sont gentils, comme le Parisien qui nous dit « drôle et enlevé, plein de dialogues croustillants et de références à la carrière du vrai Nicolas Cage. Le film offre l'occasion aux comédiens de livrer une interprétation ahurissante et sur le fil qui relève de la mise en abîme, tant le scénario multiplie les clins d'œil à ses rôles passés et joue avec son image publique. »
Ouais, bah, ils ont juste décrit le film là en fait, non?
Bah oui,
ils ont apporté.
En disant que c'était bien.
Ah oui, ils ont dit c'était bien au début.
Ouais. Mais tu sais, des fois les critiques ils font le scénar, tu sais, ils font le synopsis et puis on... et voilà.
Je vais rajouter un petit bien par là, un petit bien par là.
Et il le fait bien.
Et hop, okay,
c'est cool.
Et d'ailleurs, je sais pas si ce sera le cas pour la revue de presse, mais je me disais dans nos critiques, on a tous parlé de Nicolas Cage et pas du tout du réel. Et c'est pour parler de l'aura de Nicolas Cage.
Le destin parlera de lui-même, tu verras.
Ah oui. C'est le talent en or massif s'exprime.
Gormican, Oscar bientôt. Moi, je vous le garantis.
Je l'ai annoncé.
Cannes l'an prochain.
Palme d'or, Gormican.
Palme d'or, Venise, tout. Et certainement Scarlett au bout. Hein. Il va être passe paria avec, bien sûr.
Trois enfants. Trois enfants.
J'ai une vision.
Scarlett au bout.
Scarlett au bout.
Parce que pour moi, c'est le golden golden goal.
Oui. Alors, Lops, haut la main, voici le film le plus frappadingue de la saison. On est quelque part entre Dans la tête de John Malkovich et Grosse fatigue de Michel Blanc, mais sur le mode percuté grave.
Un film de barge.
C'est un gros film de barge. West France, après avoir longtemps hésité à accepter ce projet, Cage y révèle une autodérision irrésistible qui lui permet de reprendre la main sur une image parfois dévoyée. Un geste malin pour un film qui ne l'est pas moins.
Eh oui, non, mais évidemment, il a pas mis ses cartes n'importe où. Hein.
Bah non, il est pas con,
il
a un très bon agent.
C'est un film malin.
C'est malin.
C'est super malin, surtout si les salles sont pleines. Bon, moi, franchement, on était trois dans la salle, mais c'était séance de midi. Parce que j'aime bien aller à midi quand je peux, parce qu'il n'y a personne.
Puis il n'y a pas de marteau-piqueur aussi.
Oui, ils mangent les mecs, mais c'était pas dans la même salle, heureusement. J'aurais pété un câble sinon.
Le marteau-piqueur gate.
Ah ouais. Je m'en souviendrai de celui-là.
Ah, oui.
Qui n'a pas aimé
Écran large, comment bah, c'est progressif et qu'en large, on n'a pas trop aimé. Le film reste un peu trop dévoué à son concept pour se dépasser. Faute de gags inventifs, le muret encore, on en a marre. Il manque le coche de la célébration KGN ultime pour devenir une pastille introspective, anecdotique, quoique sincère, qui satisfera sans aucun doute ses plus fervents fidèles, mais pas forcément les autres.
Ouais, mais chipote là.
Mais chipote.
Chipote un peu. Bon, il faut, mais.
Cinématiseur est d'accord, amusant, mais pas suffisant pour transformer en or le plomb d'une écriture et d'une mise en scène impersonnelle.
Ah ouais.
Moi j'ai trouvé qu'il filmait pas bien les scènes d'action.
Ouais, mais c'est quand même correct. Je trouve que franchement Cormican a beaucoup d'efforts à faire là-dessus, mais il est tellement doué.
Ça c'est parce qu'il a été stagiaire chez Christopher Nolan.
Il y a un
Nolan,
truc que j'ai pas aimé qui m'a énervé.
Bam, balle perdue.
Pendant le film, c'est le couteau de Chekhov là. Pendant une demi-heure, on vient de filmer un couteau qui est tombé dans la benne.
Il fait ça.
Il y a un plan exprès pour lui, tu vois, en pleine scène d'action, tu fais bon.
Après on te le remonte.
Ce couteau, il va servir à quelque chose. Et moi pendant tout le film, je suis là pour. Le couteau. Maintenant, le couteau. Et à chaque fois, tu crois que ça va être le couteau et c'est pas le couteau. Tu fais, mais c'est pas possible. Il y a 8 personnes qui sont passées dans cette voiture depuis. Ils ont pas vu le couteau. Quoi. Ça me rendait ouf. Donc, ça, c'est un peu. Ça, c'est une erreur, Tom. Mais t'inquiète, je te pardonne.
Non, mais on peut pas, faire un chef-d'œuvre dès le deuxième film. Bah, hein, oui. C'est normal. C'est le troisième, le bon. Libération, un film sans grand intérêt, au rebondissement mou et à la mise en scène négligée qui a globalement le souffle d'un épisode de Julie Lescaut.
Ils abusent là quand même.
La violence. On aurait préféré quelque chose de plus ambitieux, de plus fou, de juste à peu près décent. Mais ce n'est au fond pas très grave. Un talent en or massif n'est qu'un prétexte pour louer l'effervescence protéiforme de Nicolas Cage. Et de ce point de vue-là, le film est plutôt honnête.
Julie Lescaut.
Ah oui. Ah ouais, je me suis dit, la comparaison Julie Lescaut, elle est quand même un petit peu galvaudée.
Il y a peut-être un épisode où Babou, elle se fait enlever par, par une bande organisée. Et voilà, il doit aller la sauver, ça peut-être rappeler ça.
Non, mais en fait, je trouve que l'avantage de la partie action du film, c'est que c'est rythmé, ça dure pas longtemps, quoi. Enfin, on passe vite à autre chose, les scènes sont pas longues et tout, donc
j'avoue
ça vole pas haut, mais.
J'avoue que l'enquête est un peu Julie Lescaut, oui, ok, parce qu'il n'y a pas d'enquête. Mais. Ouais.
C'est vraiment, oui, en fait, c'est comme s'il n'y avait pas de scénar non plus, mais on s'en fout, tu vois.
Non, on s'en fout d'ailleurs.
C'est juste qui tu mets dans ta scène et ce que tu leur fais dire et comment ils interagissent ensemble qui est marrant, quoi.
Mais en vrai, même les scènes d'action, les gars sont pas expérimentés pour ça. C'est juste un comédien et un mec, un faux caïd qui compte des vrais méchants, tu vois.
Ouais, puis c'est...
Donc c'est logique que ce soit un peu claqué, tu vois.
Et c'est pas l'intention, je pense, ni de Tom Gormican, ni du film, ni du scénario, quoi.
De toute façon, ils le disent à l'intérieur même du film, c'est qu'eux, ils veulent un scénario avec de la psychologie de personnage. Et ils veulent pas cette histoire d'enlèvement et tout, donc en fait elle est amenée par la force des choses, mais justement même le film en lui-même met plus le focus
sur
la bromance
et c'est malin,
c'est là que c'est malin. Mais bon, Criticat, le journal des chats, n'a pas trouvé ça très malin. Ils ont même titré miteux, mais MYTHEUX pour faire un jeu de mots écrits.
Le mythe, quoi.
Le mythe miteux, ouais. Pas mal, hein, les chats,
c'est pas mal comme petit.
Alors,
jeu
ils
mot,
nous disent
bien.
Si l'on peut ressentir un certain plaisir à voir l'acteur s'adonner à ce cabotinage et figurer sa carrière comme un véritable business plan permettant de financer un train de vie dérisoire, le film réfrène ses élans décalés à mesure que l'intrigue se met en place.
Ouais. Un train de vie dérisoire.
J'ai compris, ouais. Bah écoute.
D'où tu juges la vie des gens,
c'est, ouais. Des chats, hein.
C'est des chats.
C'est des chats.
Les chats jugent tout le monde.
Le chat a un train de vie dérisoire en lui-même.
Ben ouais, donc du coup, va savoir ce qu'ils pensent des gens, quoi.
C'est clair.
ça doit être le néant.
Quand il rentre le soir, il est rentré, ce bâtard.
Oh non, quand
heureusement que c'est lui qui me nourrit. Hein.
Ah, c'est un... ouais. Ok, ben merci la presse, merci Kevin.
De rien.
Un talent en or massif, Tom Gormican. Surveillez bien ce nom.
C'est lui le talent en or massif.
Vous le verrez bientôt sur toutes les couvertures de magazines, voire même à la place des lettres Hollywood.
Gormican Boulevard.
Nicolas Cage n'a plus rien à prouver, mais c'est vrai que, par contre, je suis d'accord. Si on peut le revoir un peu plus maintenant, ce serait cool parce que, en vrai. Comment on peut ne pas aimer Nicolas Cage?
Mais non, il est trop choupi.
Même quand il fait de la merde, on l'aime bien. Ah, eh ben ok. Eh ben, c'est la fin déjà de cet épisode. On va se dire au revoir et puis on va voir ce qu'on match retourne nous la semaine prochaine.
Bah ouais, qu'est-ce qu'on match retournera?
Tu vas voir.
Suspense is essentially an emotion.
Voilà, c'était le match retour d'un talent en or massif avec Nicolas Cage de Top Gun Mikan. Il y a aussi Pedro Pascal. Enfin bref, on va tout le refaire, mais vous voilà. Vous pouvez aller le voir si vous avez envie de vous détendre les neurones avec les copains, les copines, en famille. Ça fait le taf. Hein, n'y allez pas chercher, je sais pas.
Midi à 14h voilà, par exemple.
Cherchez pas midi à 14h. Je vous en prie. La semaine prochaine, nous, on va match retourner
à
un film avec un homme aussi charismatique que Nicolas Cage. Je parle physiquement, évidemment.
Oh.
Car c'est The Northman.
Wow. Il ne rattrape pas les couteaux, il rattrape les lances.
Wow. Ouais, ouais. Oh.
De Robert.
Fil conducteur.
La lance de Tchekhov.
Hey. Mais ce sera un tout autre cinéma quand même. Et on vous dira si on a hâte ou pas de le voir avec sa Béa qui va suivre cet épisode-là. Et puis voilà, vous connaissez la recette. Après, c'est Twitter, Facebook, Instagram pour les réseaux. C'est le site internet pour écouter tous les épisodes www.fetabea.fr. Si ça vous dit pas les sites internet, vous êtes plus portable, Spotify, Deezer. On est partout, donc n'hésitez pas. On vous dit à la semaine prochaine. Des bisous, à ciao, bonsoir.
Ciao, bye bye.
Arrivederci.
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 Arrivederci.